Avant de commencer, je veux juste donner des nouvelles de Henri, qui m'a demandé de le remettre et de prier pour lui. Alors, je ne veux pas oublier. Donc, Henri s'est fait opérer et rentré jeudi à l'hôpital. Vendredi, on l'a opéré. Samedi, il est sorti. Il est chez lui. Donc, ça va. Il faut prier pour sa convalescence. Donc, il était opéré des hémorroïdes. Il saignait beaucoup, tout le temps. Il ne pouvait pas venir ici souvent. Hein. Donc maintenant, j'espère que tout va s'arranger et que nous pourrons l'avoir avec nous plus souvent. Hein. Donc, on peut toujours prier pour lui. Donc, voilà pour les nouvelles. Donc, aujourd'hui, on va prendre un passage qui se trouve dans Éphésiens. Donc, je vais prier d'abord.
Père Céleste, merci pour ta parole qui est la vérité, qui nous sanctifie. Aide-nous à la mettre en pratique. Parle-nous à chacun et fortifie-nous. Que tu sois glorifié. Merci parce que tu es au milieu de nous. Et Seigneur, nous pouvons nous approcher de toi librement et nous pouvons être en communion avec toi et les uns avec les autres. Et c'est merveilleux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons prendre un passage qui se trouve dans Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 16. Donc, Éphésiens 4, versets 1 à 16. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottant et emporté à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Alors ici, Paul, prisonnier, exhorte les chrétiens à marcher d'une manière digne de leur vocation. Et à cause de sa vocation, il souffre, il est prisonnier pour sa foi, mais il veut en être digne. Et ça c'est important, il conseille aux autres d'être dignes, mais lui aussi il veut être digne dans cette circonstance même. Alors, on voit qu'il se fait du souci pour le corps de Christ qui est l'Église. Et pour lui, ça a toujours été un grand souci, l'Église. On peut lire dans 2 Corinthiens 11, 28, il dit « Sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les Églises. » Déjà, quand il y a une église, il y a beaucoup de soucis, mais alors qu'il y a beaucoup d'églises, alors on peut voir tous les soucis qu'il a pu rencontrer et dont il nous partage pas mal dans les épîtres. Hein. Les épîtres sont écrites pour donner conseil, pour résoudre beaucoup de soucis hein, et de problèmes. Alors, il veut voir grandir le corps de Christ. Alors, c'est un peu comme une maman. Alors, de nos jours, ça devient de plus en plus moderne. Moi qui vieillis, je suis un peu dépassé des fois. Là, c'est un nouvel appareil que j'ai mis pour la première fois. Mais aujourd'hui, on peut filmer le fœtus dans le ventre de la mère. Hein. Nous, à l'époque, on avait la photo. La photo du fœtus en noir et blanc. Maintenant, c'est en trois dimensions, je crois. On peut filmer. Donc, pendant 9 mois, celui qui... la maman qui insiste peut voir son bébé avant qu'il naisse pendant 9 mois. Puis, après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le bébé, elle veut le voir grandir et donc elle va prendre soin du bébé et ça va prendre du temps. Mais donc, son but, donc parmi nous, il y a des mamans, hein, des jeunes mamans. Alors, j'ai vu. Que peut-être il y en a qui ont donné le sein, et puis d'autres ont donné à manger, du lait. Mais bon, il y en a certains qui sont passés déjà au petit pot avec la viande et tout. Et donc tout ça, c'est dans le but de voir grandir. Et s'il ne grandit pas, alors il y a un problème. Et donc, c'est ce qui se passe pour une maman. Et puis il devient enfant, et alors il a la maman, et je laisse le papa de côté parce que lui, il fait moins de choses que la maman. Et peut-être. Le lien est plus fort, hein. Mais l'enfant est l'objet de tous ses soins pour qu'il grandisse. Et puis ça va jusqu'à l'âge adulte. Et puis à l'âge adulte, on pourrait penser quelquefois que, entre guillemets, comme on dit, le cordon ombilical est rompu. Mais il est toujours là. Et donc, adulte, les parents se font du souci pour cet enfant. Ils ont mis au monde. Alors, pour Paul, c'est la même chose. Et il veut que ce corps de Christ grandisse, cette personne, entre guillemets. Et heureusement qu'on a un grand Dieu, et on peut voir que Dieu est merveilleux. Et Dieu est merveilleux, et peut-être que certains en doutent encore aujourd'hui. Hier, j'ai vu juste quelques instants de quelqu'un qui présente des livres. Et il parlait des choses merveilleuses de l'espace qu'on découvre. Alors, il paraît qu'il y a de l'eau partout, finalement. Alors, j'ai pas suivi, mais c'était bref pour moi. Et donc... il y a des découvertes merveilleuses sur les exoplanètes, sur beaucoup de choses. Et à un moment donné, l'auteur interviewé a dit comme un jeu de mots, quoi. Mais en fait, il a dit il faut des yeux, ou Dieu, on n'a pas Dieu pour voir. Et le présentateur a dit « Ah non, pas Dieu !» en rigolant. « Laissons Dieu !» En fait, il parlait des yeux, mais voilà, parce qu'on ne veut pas de Dieu. Et je crois que ce présentateur ne veut pas de Dieu. Souvent, il présente des livres un peu scientifiques, modernes. Et donc, lui, il a montré la couleur. Mais nous savons que Dieu... est merveilleux. Alors peut-être que vous ne regardez pas trop la création, mais ça vaut le coup de le voir, Dieu, dans ce qu'il a créé. Surtout maintenant, dans le printemps, hein, où tout est bien humide et tout a bien poussé, et on voit des choses merveilleuses dans la nature, que ce soit des fleurs, mais aussi toutes sortes d'insectes, d'animaux, des oiseaux, beaucoup de choses. Si vous regardez une portion de terre, un mètre carré, je ne sais pas, très petit, eh bien vous verrez que si vous faites bien attention, ça grouille. Ça grouille de toutes sortes de vies, d'insectes. Alors peut-être maintenant il y a des tiques, et puis on ne les voit pas, elles sont petites. Après, quand on voit un chat qui emporte, on dit « Ah ben, il y en avait ». Puis quand on regarde, « Ah ben, il y en a ». Et puis on voit des insectes qu'on n'avait peut-être jamais vus. Là, ces jours-ci, il y a un insecte qui est rentré. Bon, j'habite un peu dans la nature, hein, et je laisse tout pousser. Et donc, il y a un insecte qui est rentré chez moi, et qui était coincé dans la vitre. Il y avait mon fils qui est là. Il dit « Qu'est-ce que c'est ça ?» Et alors je dis, une guêpe ? On ne savait pas ce que c'était. L'insecte n'a pas voulu qu'on prenne des photos de lui, qu'on examine au microscope. Alors bon, je l'ai mis dehors. Mais il était vert foncé, le corps allongé. Alors, je ne sais pas si c'était une guêpe hein, ou un genre de scarabée, s'il avait des élytres ou quelque chose comme ça. En tout cas, il me semble que je n'avais jamais vu ça. Mais un de plus dans mes souvenirs. Est-ce que ça pique? Est-ce que ça fait quelque chose de mal? Hop, voilà. Donc, c'est en fait l'infinie variété de ce que Dieu a fait, les merveilles de ce que Dieu fait. Et quand on voit ça, moi je dis, il y a Dieu là, il y a Dieu qui a mis sa main. Quand on voit les planètes, je dis pas c'est le hasard, je dis il y a Dieu. C'est magnifique, merveilleux, c'est Dieu. Mais on voit que, en plus, qu'il y a des interactions partout. Tout est lié. Ça paraît incroyable comment les choses sont liées et même comment les choses s'adaptent. Je ne veux pas passer beaucoup de temps à donner trop d'exemples, mais bon. Il paraît que la luciole, il y a plein de lucioles la nuit, et au bout d'un moment, elles se mettent ensemble pour clignoter. Donc il n'y a qu'une lumière. Donc, comment ça se fait? Alors, c'est incroyable, cette unité, ces interactions. Hein. Et donc, on voit par ce que Dieu a fait que Dieu est merveilleux. Et. Aussi, Dieu est merveilleux, et nous le savons, nous ici, parce qu'il a envoyé son Fils. Et son Fils a accompli une œuvre merveilleuse. Il s'est acquis l'Église par son propre sang. Alors, ça, c'est l'œuvre de Dieu pour nous réconcilier avec lui. Et pourquoi nous devenions son corps? Et à Pentecôte, il a envoyé son Saint-Esprit pour commencer une œuvre en celui qui croit en lui. Celui qui ne croit pas en lui, il peut être bénéfice des choses de Dieu en appréciant la nature, en appréciant peut-être les chrétiens, ce qui se passe dans l'Église, en appréciant peut-être la parole de Dieu, les passages de la Bible. Mais quand on croit, il y a une œuvre en nous qui commence. Et cette œuvre, elle est merveilleuse. Parce qu'elle va nous faire distinguer de tous les autres hommes. Alors, il a fait de nous les membres de son corps. Alors, il y a beaucoup d'images pour l'Église dans la parole de Dieu. Hein, mais, par exemple, l'épouse, c'est une des images. Hein, et l'Église est comparée à l'épouse de Christ. Alors, on peut voir ce qu'il est dit dans Éphésiens, juste après, Éphésiens 5, 25-27. Donc, il compare le couple, l'épouse, qui s'approche de Christ. Alors, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc, là, en même temps, on voit le but du Seigneur, hein, faire paraître devant lui cette église glorieuse, cette épouse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voilà le but du Seigneur. Mais dans le Nouveau Testament, l'église est comparée plus d'une trentaine de fois au corps de Christ, à un corps. Et donc, si nous sommes émerveillés par la nature, nous devrions être encore plus émerveillés par un corps émerveilleux. Peut-être pas le mien, mais en tout cas, un corps, c'est quelque chose d'extraordinaire, même si c'est ordinaire. C'est Dieu qui l'a fait et on voit que il y a de quoi s'émerveiller quand on regarde chaque chose, chaque détail, à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Donc, rappelez-vous ce que dit David, « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. » Eh bien, c'est ça. Hein. Dans le corps, il y a une diversité et une unité merveilleuse. Ça, c'est quelque chose. Hein. Il y a des connexions, des interactions époustouflantes. Et que ce soit dans ce qu'on ne voit pas, hein, les cellules, les os, à ce que l'on voit, la peau, puis la forme, etc. Hein. Donc, c'est quelque chose qui semble tellement habituel qu'on est peut-être blasé, on ne fait pas attention. Rappelez-vous, la maman qui attend son premier bébé, elle fait attention au début, dans tous les détails. Mais finalement, personne s'est dit ce matin, je pense, peut-être pas moi, puisque moi j'ai préparé ce message, je suis une créature si merveilleuse. Ah ouais, voilà, c'est quelque chose de merveilleux. Comment je peux être fatigué, me lever, comment je peux faire des choses, comment tout peut se mettre en place dans mon corps, bouger, agir, porter, faire des efforts. C'est incroyable. Et donc, là, on voit cette merveille du corps. Et donc, si on l'étudie, alors là, c'est... Autant les planètes paraissent infinies, grandioses, belles, autant à l'intérieur, ben, c'est pareil, hein, c'est un monde merveilleux. Alors, tout est fait pour que le corps s'entretienne par lui-même. Ça, c'est bien, hein. On a, je veux dire, quand je me couche, je sais que tout va aller bien, à moins que je meure, hein, mais, ou alors qu'il y ait un problème, mais en tout cas, je vais me lever, et puis tout va se mettre en place, hein. Je dis pas à mon bras, allez, hop, lève-toi. Allez, maintenant, bouge le pied. Non, tout se fait, voilà, maintenant, les choses sont en place depuis tant d'années. Eh bien, ça c'est quelque chose de banal, mais c'est merveilleux. Alors, mais pour grandir, il faut aussi de la nourriture, de bons soins, et beaucoup de choses encore. Hein. Alors, mais il ne faut pas perdre de vue que son but, c'est grandir et s'épanouir. Ça, c'est quelque chose d'important. Parce que il est important d'entretenir notre corps. Alors, avec la bonne nourriture, hein, des bons produits si on veut, mais aussi en faisant de l'exercice, puis en recevant des soins, hein, en se lavant, en faisant pas mal de choses qui vont l'affermir, hein, et le rendre fort. Hein. Alors, nous sommes le corps de Christ. Et nous sommes en Christ. Alors, dans Éphésiens, il y a un très grand nombre de fois où il nous est dit que nous sommes en Christ, en lui. Et donc, ça c'est important, hein, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et en tant que chrétien, bien, chacun est une partie de ce corps, mais nous sommes indissociables en lui. Nous sommes une unité. Et c'est important de penser que nous sommes en Christ, pas un chrétien, puis il s'ajoute comme ça, non. Nous sommes tous en Christ. Et ça, c'est ce que Dieu voit à travers chaque chrétien. Il voit un seul corps avec plein de membres, plein de fonctions, de possibilités, mais qui marchent ensemble. Alors, la parole de Dieu nous dit que nous sommes progressivement transformés par notre union vitale en Christ. Peut-être vous avez un jardin ou une vigne. Moi, je me rappelle quand je faisais les greffes dans la vigne. Peut-être vous savez comment ça se passe, une greffe. C'est pareil avec les arbres fruitiers. Hein. C'est vraiment pas le dire. Mais donc, le cep, c'est en fait un gros sarment qui prend racine. Et puis, qu'est-ce qu'on fait pour qu'il ait des sarments qui portent du fruit ? Bien, il faut une greffe. Et donc, on coupe avec un couteau qui s'appelle. Bon, c'est un couteau spécial. Hein. Et puis, c'est un couteau. Et donc, hop, on voit toute la pulpe. Et puis, après, au milieu, on fait une entaille. Une entaille profonde, mais pas trop. Et puis, on prend un sarment qui est la vie, qui a la vie. Et puis, on le taille en biseau des deux côtés. Et puis, on le met dans la fente. Il est en biseau et il peut rentrer. Et donc, plus on appuie, plus il force, plus il est serré. Et de plus, on l'entoure d'une ficelle, on l'attache pour qu'il soit bien uni. Et au bout d'un certain temps, eh bien, avec la sève qui monte, ça on le fait avant le printemps, hein, avant qu'il y ait la sève, eh bien, quand la sève va monter, eh bien, ça va s'unir, et au bout d'un certain temps, bon, il faut compter une année, hein, mais déjà, la première année, il faut que ça marche, eh bien, le fil, on n'a plus besoin du fil. Et ce bout de sarment qu'on a ajouté, qui avait des bourgeons qui étaient fermés, qui n'allaient pas sortir, eh bien, il ne fait plus qu'un avec le cep. Et puis finalement, au bout de quelques années, bien, ça va porter du fruit, on ne saura pas que ça vient du cep. On le saura parce que le cep, il grossit plus. Et parce qu'il y a beaucoup de sarments. Mais donc, on voit cette union, le sarment devient le cep en fait. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Parce que ce bout de sarment, il ne bourgeonnera jamais s'il est attaché au cep. Et le cep, eh bien, il a besoin du sarment pour porter des fruits. Et donc, chacun de nous a une fonction particulière. Ça, c'est important. Et nous sommes tous appelés à un but, c'est pour le corps. Alors, ici, il nous est dit, versets 11 à 13, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Alors, voilà, alors nous sommes chacun en particulier des dons pour l'unité, pour l'intégrité du corps. Et j'aimerais lire d'autres passages, alors je vais faire le plus vite possible, mais pourquoi pas ne pas les lire. Alors c'est Romains 12, 3-8, Parce que peut-être certains diront, mais moi je ne suis pas là. Je ne suis pas apôtre, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas magiste. Alors, Romains 12, 3, 8, il est dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alors, peut-être je dis, eh bien là j'y suis, mais d'autres disent, eh bien moi j'y suis pas. Alors, lisons encore un autre passage, hein. C'est 1 Corinthiens 12. Alors, peut-être un peu plus loin, mais je crois que ça vaut la peine de le lire. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Notez bien. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Mais Dieu a placé chacun des membres dans le cœur comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps, qui paraissent être les plus faibles, sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Voilà ce que nous dit le Seigneur par les écrits de Paul. Hein. Il est dit comme le corps est un. Et ça, c'est quelque chose d'important. Hein. Alors, j'ai apprécié de lire des écrits où on compare le corps, où on ausculte le corps pour voir combien il est merveilleux. Et je vais vous lire de temps en temps quelques citations d'un docteur qui était missionnaire, qui soignait la lèpre, et qui a fait des analogies avec le corps. Et il dit, par exemple, alors, c'est pas tout à fait texto, mais des fois oui. Le corps de Christ, comme notre propre organisme, est composé de cellules individuelles, différentes, mais unies ensemble pour former un seul corps. Il est un tout. Chaque cellule doit reconnaître qu'il en est ainsi et en avoir de la joie. Individuelle, différente, mais unie aux autres. Alors, voilà quelque chose de merveilleux, hein? Parce qu'on peut se sentir différent. On peut penser qu'on est à part. Mais c'est sûr qu'on est des individus à part, mais qui s'unissent. Et même si on est différent, mais justement, le corps est différent. Comme dit Paul, on n'est pas tout oui, oreille, odorat. On est tous différents pour se compléter, pour former un seul corps qui marche. Alors, nous avons été transformés par Christ et désormais, nous sommes différents des autres hommes. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Mais parce que nous sommes en Christ. Alors, ce n'est pas une religion, mais c'est une communion en Christ et les uns avec les autres. Donc, autrefois, moi je suivais une religion, la religion catholique, et je suis content d'avoir eu une bonne morale enseignée, mais je n'étais pas sauvé. C'est une fois que j'ai rencontré Christ, vraiment, en disant j'ai besoin de lui pour qu'il me pardonne mes péchés, et j'ai besoin de lui pour vivre par lui. Et donc, quand j'ai compris que, je n'étais pas le seul à avoir découvert cette vérité, ben, j'étais heureux de rencontrer d'autres personnes qui croyaient comme moi. Et puis finalement, ben, c'est le corps de Christ, c'est l'Église. Et ça, c'est merveilleux. Alors, je vais vous lire aussi quelque chose encore. La communauté appelée corps de Christ diffère de tout autre groupement humain. À la différence d'un corps politique ou social, l'adhésion à cette communauté comporte quelque chose d'aussi radical qu'un nouveau code imprimé à l'intérieur de chaque cellule. En réalité, je deviens génétiquement semblable à Christ lui-même parce que j'appartiens à son corps. Alors, être lié spirituellement en Christ et être justement un nouveau corps spirituel en lui, ça c'est quelque chose qu'on doit prendre conscience. Alors, dimanche dernier, je me rappelle que David avait cité un verset, Galates 2:20, j'étais crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Dans Jean 14, 20, il dit « Je suis en mon Père, vous êtes en moi, je suis en vous. » Voilà les paroles du Seigneur. Jean 15, 5, par rapport à la vigne, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Les gènes spirituels de Christ nous sont attribués. Nous sommes jugés devant Dieu sur la base de la perfection de Christ et non sur notre indignité. Parce que c'est vrai que nous sommes indignes, mais Christ est parfait. 2 Corinthiens 5:21 dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » De même que le code d'identité de mon corps est inscrit tout entier dans chaque cellule individuelle, ça peut-être vous l'avez appris en étudiant la biologie, hein, ainsi la réalité de Dieu imprègne-t-elle chaque cellule de son corps et nous unit, nous ses membres, par un vrai lien organique. Alors, est-ce que nous avons conscience de cette communion, de cette unité en Christ et ensemble, chaque membre? Ça, c'est quelque chose que nous devons prendre conscience, et peut-être ça éviterait à une main de frapper une autre main violemment, ou alors à un pied de donner un coup à un autre membre, et etc. Je me fais mal à moi-même quand je fais mal à quelqu'un d'autre qui est un autre membre du corps. Et je me fais du bien quand je fais du bien à un autre membre qui est le membre du même corps que moi. Alors, dans la parole de Dieu, hein, Paul voit les obstacles à l'épanouissement du corps de Christ. Et en fait, on voit que Satan veut détruire l'unité, toujours. Et Paul a averti les chrétiens dans chacune de ses lettres de veiller à l'unité. Alors je peux juste donner un verset à 1 Corinthiens 1:10. Alors là, il avertit cette église. Hein. Donc il dit aux chrétiens de Corinthe: je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Et il va rappeler ce besoin d'unité dans chaque épître. Alors, il y a dans cet épître une énumération que fait Paul de beaucoup de péchés au chapitre 4 d'Éphésiens, hein, au chapitre 5, qui nuisent à l'unité et qui produisent des sentiments controversés, hein, de gêne, de frustration, de rancune, de jugement, de rejet et bien d'autres. Et pour nous, ben, nous devons ôter ce qui nuit au développement du corps. Tout péché, comme on l'a dit tout à l'heure, et donc tout ce qui pourrait nuire à ces péchés que Satan veut entretenir, même produire. Alors, parfois, nous devons ôter ce qui nuit au développement du corps. Hein. C'est pour ça, dans la médecine, il y a la chirurgie, des fois. Hein. Alors, il vaut mieux être guéri sans chirurgie, mais quand c'est nécessaire, eh bien, il y a la chirurgie. Eh bien, voilà. Et peut-être, il est dit, ôtez le méchant, ôtez vos péchés, débarrassez-vous de ce qui nuit au corps. Et aussi, il nous est dit de prendre soin de ce qui est faible. Peut-être des malades, mais pas que physique, spirituel. Hein. Et c'est vrai que on peut avoir une idée juste des maladies spirituelles en regardant des malades physiques. Hein. Quand quelqu'un est handicapé, eh bien on voit son handicap et on essaie de compenser. Quand quelqu'un est petit, quand c'est un enfant, eh bien on fait les choses par rapport à lui. Et ils ne pourraient pas écouter ce message, les enfants qui sont aujourd'hui à l'école du dimanche. Peut-être que ça va être trop compliqué. Ou fastidieux. J'espère que ce n'est pas fastidieux pour vous. Mais donc, si quelqu'un est malade, on va essayer de le soigner, de lui donner des médicaments, de prendre soin de lui. Donc, prendre soin de celui qui est faible. Je me rappelle avoir lu une biographie d'une femme qui avait eu une péritonite mal soignée et qui avait failli mourir et qui est restée handicapé, allongé elle a plus de 50 ans. Et cette femme, tout le monde allait la voir, c'était une bénédiction pour tous. Elle priait pour tous, elle s'entretenait avec tous, de temps en temps, certains la prenaient et l'allongeaient dans la pelouse, et c'était son bonheur. Et puis bon, elle souffrait, toujours même si elle ne pouvait pas bouger, mais pendant plus de 50 ans, elle priait pour les uns, pour les autres. Et son témoignage a été une bénédiction pour tous ceux qui souffrent, parce que chaque fois on dit « Ah, j'ai mal ici, si, j'ai mal là », et on se plaint pour peu de choses. Et voilà, vous savez, moi je fais un stand biblique au marché, il y a un livre de un chrétien que tout le monde connaît maintenant, Vivogique, je crois que ça s'appelle, son nom, je ne sais pas. Et donc, il est né sans membre, hein. Il a juste les mains et les pieds, et encore. Et donc, c'est un homme trop, si on veut. Mais il est marié, je crois qu'il a des enfants. Et donc, il est heureux. Et donc, je mets ce livre, et à sa photo, et au-dessus, il y a un autre livre. En fait, ça n'a rien à voir, mais des fois, vous savez, les gens, ils font un rapprochement, ils disent... il y a un autre livre qui dit « Mais pourquoi... » J'ai oublié le titre. « Mais pourquoi je devrais croire ?» quoi. Ou, excusez-moi, mais j'ai pas noté le titre, mais en fait, c'est pour montrer que finalement, on cherche des excuses à croire, en disant « S'il y avait un Dieu, je ferais ceci, cela, ou il n'y aurait pas de maladie. » Je ferais... Alors, en fait, notre livre, c'est s'il y avait un Dieu. Mais il y a un Dieu pour ce chrétien qui vit pleinement sa vie chrétienne, même handicapé. Alors, peut-être que aucun de nous n'a fait autant de choses que lui. Et donc, il est une bénédiction pour l'Église. Alors, au verset 12, il nous est dit que le Seigneur a fait des dons à l'Église pour son édification. Et nos dons sont pour l'Église, le corps de Christ. Que ce soit des hommes, ou que ce soit des compétences, des talents, eh bien, Dieu nous donne des choses pour son corps. Et chaque cellule a une fonction. C'est merveilleux comment les cellules agissent. Un globule blanc, dès qu'on a une blessure, alors qu'il se promène dans le corps, tout de suite, il va attaquer la plaie. Quand il y a une infection, tout de suite. Et il va mourir. Hein. Il va mourir peut-être dans quelques jours sans rien faire. Mais ce que disent les biologistes, c'est qu'on a l'impression qu'il se promène. Sans... Voilà, indépendant. Et puis d'un coup, dès qu'on fait quelque chose, hop, ils viennent. C'est pour ça qu'on saigne moins, c'est pour ça que c'est cautérisé, etc. Hein, et qu'on guérit. Hein. Alors, nous sommes tous essentiels dans le corps. Nous avons besoin des autres, nous avons besoin de tous. Si la main, le pied ou l'oreille ne peuvent avoir une existence séparée du corps, une cellule, par contre, a cette capacité. Elle peut loyalement faire partie du corps, ou bien s'accrocher à sa propre vie. Certaines cellules préfèrent en effet vivre dans le corps et bénéficier de ses bienfaits tout en gardant une totale indépendance. Ce sont elles qui deviennent des cellules parasites ou cancéreuses. Voilà, c'est ce que la nature, le corps, nous enseigne. Et donc, on a besoin de... Les plus petites cellules, les terminaisons nerveuses, les cellules nerveuses sont extraordinaires. Alors le corps a beaucoup de possibilités. Peut-être que on peut se sentir diminué. Alors, il y a les Jeux paralympiques, on voit des choses extraordinaires faites par les handicapés. On voit les globules blancs, donc ces anticorps. On voit des gens qui ont des membres amputés qui font des choses extraordinaires. Et peut-être que nous, on se dit, eh bien, nous sommes limités en quoi que ce soit. Eh bien, finalement, on doit remercier le Seigneur pour notre diversité. C'est quelque chose qu'il faut comprendre, que si nous sommes dans le corps, nous sommes utiles. Eh bien, nous devons contribuer chacun à l'édification du corps. Regardez ce qu'il est dit là au chapitre 4, verset 7 d'Éphésiens. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Alors, chacun de nous pourrait dire, eh bien, voilà, moi je sais ce que je fais dans le corps. Et s'il y en a qui disent, je ne sais pas quoi faire, eh bien, le Seigneur dit, je vous ai donné un don. Alors, nous avons un don disponible. Alors, je peux rappeler ce que dit l'apôtre Pierre dans sa première épître, au chapitre 4. Donc, il dit au verset. On peut lire les versets 10 et 11. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors, chacun a un don, et chacun peut et doit le mettre à disposition. Bien sûr, on peut vivre sans un bras, on peut vivre peut-être sans jambes, on peut vivre... Mais combien on peut faire de choses merveilleuses avec un corps en bonne santé où il y a tous les dons. Hein. Et dans ce passage d'Éphésiens, il nous est surtout de mettre en pratique la parole de Dieu pour le corps, mais en manifestant l'amour, par l'amour. Et donc, ça c'est important, hein. Dans Hébreux 10, 24, je vous rappelle un verset important. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Alors, faisons appel au divin médecin si c'est nécessaire. Hein. Alors, intercédons pour les malades, mais pas que pour les malades physiques. Les malades qui ont des problèmes psychiques peut-être, mais les malades spirituels peut-être. Prions pour nos besoins, pour l'Église. Alors peut-être les besoins matériels, mais aussi les besoins spirituels. Les dons qui pourraient manquer pour que le corps soit de plus en plus et toujours plus harmonieux. Alors, Dieu veut que nous soyons semblables à Christ. Et alors, on peut le voir ici, hein, qu'il y a un but, hein, c'est de lui. Et grâce à tous les liens de son assistance, donc c'est le verset 16 d'Éphésiens 4, hein, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune des parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. Alors, ça c'est merveilleux que Dieu veut qu'on ressemble à Christ, qu'on soit parfait comme lui. Et vous savez, eh bien là il nous est dit la conséquence, verset 14. Ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Alors, je vais lire une dernière citation, plus ou moins modelée. Le processus de l'union au corps de Christ peut, à première vue, paraître un renoncement, la perte de mon entière indépendance. Bien au contraire, renoncer à mon ancien système de valeurs, dans lequel il me fallait rivaliser avec autrui pour gagner le pouvoir, la richesse et le talent, et me soumettre au Christ, le chef, soudain me libère. Mon sentiment de compétition s'efface. Plus besoin de jouer des coudes pour m'affirmer par tous les moyens possibles. Ma nouvelle identité me donne un nouvel idéal, celui de vivre ma vie de telle façon que ceux qui m'entourent reconnaissent Jésus-Christ et son amour, et non plus un ensemble de qualités qui me sont propres. Mes mérites et mon acceptation sont en lui. Et cette marche dans le renoncement et la soumission est pour moi vivifiante, reposante et infiniment bienfaisante. Alors lisons le verset 15 ici du chapitre 4. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alors quelqu'un a dit, notre vie a un but et nous avons une destinée en Christ. C'est merveilleux. Prions. Père Célestin, combien nous étions autrefois éloignés de ces pensées, d'être unis à toi, le Créateur des cieux et de la terre, et Seigneur, d'être membre de ton corps, être ton corps. Seigneur Jésus, nous te louons, parce que tu as manifesté ton amour. Dirige-nous par ton amour, que nous le manifestions, et Seigneur, que tu sois glorifié. Garde-nous de tout mal, tout péché. Aide-nous à mettre nos dons en pratique pour l'édification de ton corps. Et Seigneur, merci parce que nous avons cette espérance. Nous avons en vue que nous serons semblables à toi quand tu seras dans ton église entouré de ceux qui ont cru et qui serviront à la louange de ta gloire éternellement. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire, que chacun ici puisse se réjouir de ta présence. Et si quelqu'un n'est pas sauvé, qu'il se tourne vers toi et qu'il ait cette joie de faire partie de ton corps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
On va avoir un moment de prière. Si vous voulez rendre grâce, vous pouvez le faire librement. Thank you.